Donc c'est ainsi par le prisme du corps comme forme et surface sensible, et cette idée d'altération, de perversion, que nous avons abouti à la notion de contamination. Le latin contamination, contaminatio, renvoie en effet à l'idée de souillure, de contact impur. Quand on pense à la contamination, on pense d'abord à des images de corrosion, de parasites, de maladies, de virus, de catastrophes environnementales, de pollution, en gros une forme de propagation néfaste, parfois rapide, contre laquelle il est parfois difficile de se mobiliser ou de réagir. Donc sans évacuer cette part, disons, destructrice de la contamination, nous avons toutefois souhaité ou essayé de l'envisager sous un angle plus neutre, plus générique, disons comme l'espace-temps d'une rencontre, d'un contact, de la collusion de différentes entités, qu'elles soient humaines ou non humaines, et aussi un peu comme la marque et le motif de notre époque. La biologiste Lynn Margulis a mis en évidence que les organismes n'évoluent pas seulement en se séparant, mais aussi en fusionnant, soulevant ainsi l'hypothèse d'une possible coévolution. Donc la symbiogénèse, c'est le terme qu'elle emploie pour décrire ce phénomène, est donc caractérisée, se caractérise par le processus, caractérise, pardon, le processus par lequel un organisme va en ingérer un autre pour former une nouvelle entité, un nouvel organisme qui garde les meilleures caractéristiques des deux anciens organismes. Ce processus fait que les individus ne sont pas isolés, les interactions sont nombreuses et peuvent mener à des synthèses. Donc, les reconfigurations associées à la métamorphose pourraient être ainsi le résultat du télescopage, de la mise en relation, voire du couplage entre une interface sensible, quelle qu'elle soit, et un organisme, une substance ou une technologie. Oh là là. Excusez-moi, je dors peu ces nuits-ci. Donc entre un le télescopage, voilà, entre une interface sensible, et un organisme, une substance ou une technologie exogène. Donc ce qui nous a d'emblée intéressé avec la contamination, par contre, c'est qu'elle relève d'une logique d'affection et parfois d'infection, qui induit donc un échange, un mouvement bilatéral et complexe, pas toujours égalitaire, dans lequel les éléments ou les entités impliquées affectent autant qu'ils sont affectés. Alors ces termes de métamorphose et de contamination, tu disais aussi, sont riches pour nourrir l'imaginaire depuis tout temps, mais ils relèvent aussi de réalités concrètes, physiques et biologiques. Et on pourrait évoquer tout un nombre incalculable d'exemples, aussi divers soient-ils, de ce type de phénomène. On va vous en proposer quelques-uns, puisque c'est des éléments qui sont revenus assez régulièrement, en tout cas dans le cadre de cette recherche. Donc, sous forme de contamination positive, si on peut dire, avec le microbiote ou la flore intestinale, qui est donc cet ensemble de. On a une petite image, normalement. Qui est cet ensemble donc, de micro-organismes et de bactéries qui colonisent l'intestin humain et qui aurait plutôt un effet positif. Ce qui permet de rappeler que le corps humain donc, est composé de 10 fois plus de bactéries que de cellules. Des cellules qu'on pourrait qualifier d'espèces compagnes pour reprendre le terme qu'utilise Donna Haraway. Autre exemple avec le cordyceps, qui sont donc des champignons parasites dont les spores, quand elles se posent sur un insecte, souvent une fourmi, pénètrent l'exosquelette de l'animal jusqu'à rompre la connexion entre le cerveau et les muscles de la victime. Ils prennent ainsi possession d'un corps devenu zombie jusqu'à l'éclosion, c'est l'image qu'on voit, jusqu'à l'éclosion du champignon qui le transperce et qui le fige à un endroit qu'il aura déterminé à l'avance. Autre exemple, évidemment, les méduses qui prolifèrent. Donc, évidemment, la prolifération, c'est un terme aussi intimement lié à celui de contamination. Les méduses donc, qui prolifèrent, elles se portent très très bien dans les milieux pollués. Ce qui est intéressant aussi avec les méduses, c'est qu'il y a certaines espèces qui ont la capacité disons, de revenir à des stades antérieurs de leur évolution, si le cas s'en fait sentir. Là, c'est une image d'une petite méduse qui vit à proximité des centrales nucléaires et qui cause beaucoup de problèmes puisqu'elle bouche canalisations ou les sorties, les systèmes hydrauliques. Et puis, dernier exemple, là aussi proliférant et résilient, avec le Mixomycète, qu'on appelle aussi plus familièrement le blob, et dont on a beaucoup parlé récemment, puisque le zoo de Vincennes vient de l'introduire, j'allais dire dans ses collections, mais en tout cas dans son zoo, qui est un organisme unicellulaire, qui est au croisement de différents règnes, ou en tout cas qui déjoue les catégorisations scientifiques habituelles, et qui a lui aussi la capacité de se mettre en veille, c'est-à-dire qu'il va sécher pendant une période qui peut être assez longue, avant de s'épanouir à nouveau une fois qu'elle aura retrouvé les conditions de vie nécessaires. Voilà, donc à travers ces quelques exemples rapides glanés dans différentes formes biologiques et vivantes, on observe à quel point le corps peut être multiple. Ils indiquent également comment la vie dans ses processus d'apparition, dans son évolution, est en constante transformation, amenant dans certains cas, par exemple le Mixomycète ou les méduses, à remettre en cause l'idée même de mort, ou en tout cas à la remettre en perspective, on la nuançant, voilà, et en introduisant même l'idée même de d'immortalité, ce qui peut être le cas aussi avec cette petite bestiole qu'on appelle un tardigrade, et qui a récemment été envoyé par la Chine sur Mars, ouais, sur la Lune, et qui est un animal indestructible.
Oui, indestructible ou quasiment indestructible. En tout cas, on est proche de l'idée d'immortalité, puisque donc c'est un animal qui fait un peu moins d'un millimètre, qui est aussi difficile à classer dans le règne animal, et qui peut, entre autres, rester congelé pendant 2000 ans et revenir à la vie, résister au vide spatial, d'où l'idée de la Chine de l'envoyer, non pas à bord, mais en tout cas à l'aide d'un véhicule, enfin d'un module lunaire, ou encore de résister à une dose qui serait 5000 fois plus puissante de radiation, je vais remettre ça dans l'ordre, de résister à une radiation qui serait mortelle pour l'homme depuis bien longtemps. Donc on voulait montrer aussi ce petit organisme qui pose question. Comme évoqué tout à l'heure, si nous avons souhaité évacuer pour un temps l'aspect destructif lié à la contamination afin d'essayer d'en tirer toute la polysémie et toutes ses implications concrètes, il subsiste toutefois une ambiguïté que l'on ne peut ignorer à ce sujet. Il existe tout un versant de la contamination, c'est celui qu'on pourrait qualifier d'annihilation, de pollution, et de la frontière parfois équivoque entre artificiel et naturel. On retrouve cet aspect dans les œuvres de certains artistes dont on va vous parler maintenant. Robert Smithson en premier lieu, fut un de ceux qui exploita ces ambiguïtés inhérentes à la notion d'entropie à travers son attrait pour le matériau, illustré notamment par cette image que nous avions choisi de mettre en exergue pour la salle 8 qui s'appelle Glue Pore. Mais je n'en dirai pas plus puisque Théo Massoulier, qui est artiste et que nous avons invité dans le cadre de cette station, nous en dira beaucoup plus dans son intervention de demain. En revanche, j'aimerais parler d'une autre artiste qui, à mon sens, s'inscrit bien dans ce travail de la matière, du matériau, en l'occurrence de la matière fossile, c'est Linda Benglis. Donc Linda Benglis est peintre, sculptrice et performeuse américaine qui est née en 1941. Son travail s'est en partie basé sur l'utilisation justement de ces nouveaux matériaux issus pour la plupart de dérivés du pétrole comme la cire ou la résine polyuréthane. Les caractéristiques de ces matériaux, fluides et mouvants, légers et résistants, ouvrirent la voie en effet à de nouvelles expérimentations techniques. L'œuvre Chimera, dont vous voyez l'image ici, donc, qui date de 1988, est caractéristique de la création de Linda Benglis. Elle est à l'intersection entre ses positions féministes et ses réflexions sur la matière picturale et sculpturale. Donc cette sculpture en bronze a certainement été coulée à partir d'un exemplaire en polyuréthane, puisque c'est un, comme je vous disais, un matériau dont elle a exploré toutes les possibilités à partir du milieu des années 70, notamment la façon dont il se comporte de façon brute, on pourrait dire. Comme nombre de ses œuvres, elle fait de la matière qui semble s'étendre et continuer de couler ici, de se propager. Elle en fait un tout. Chimera est une des premières fontaines que Linda Benglis a réalisées. Certaines, comme celle-ci, ont un caractère, comme vous pouvez le constater, plutôt inquiétant. En ce sens, il s'agit bien d'une chimère, d'une figure monstrueuse que l'on ne reconnaît pas immédiatement, qui a évidemment attrait à l'informe aussi, et qui semble sortir d'un monde fantastique. À la fois solide et liquide, mouvante et immobile, minérale et animale, elle capture et déploie les flots d'énergie et de matière, à l'instar de certaines œuvres donc de Robert Smithson, dont on parlait à l'instant. Les années 60 et 70 voient émerger les questions écologiques, aussi bien sur le plan politique qu'artistique. La pollution, la destruction des écosystèmes, les dangers liés à l'industrie pétrolière et à la civilisation du tout voiture se font jour dans le débat public. À ce titre, je repense à l'exposition sublime qui eut lieu à Pompidou-Metz et qui insistait bien sur ce point. Le péril atomique qui débute dans le désert de l'Arizona avec le premier test appelé Trinity et les deux bombes larguées ensuite sur le Japon en 1945 trouve lui son apogée lors de la crise des missiles de Cuba, donc au début des années 60. Le futur devient incertain, l'humanité a la capacité de s'autodétruire. C'est dans ce contexte que Tetsumi Kudo travaille à des œuvres mêlant sculpture, installation, performance et art graphique. Un travail profondément marqué par les bombardements justement atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et leurs conséquences nombreuses sur les corps et le paysage. Donc Tetsumi Kudo est un artiste japonais 1935-1990 qui reste inclassable et dont l'œuvre se caractérise assez rapidement par un regard ironique sur la condition humaine. Annonciateur des recherches actuelles qui altèrent les frontières entre le corps humain et son environnement, Tetsumi Kudo conçoit une nouvelle écologie au sein de laquelle la métamorphose contemporaine de l'être humain est poussée à son extrême. Cette œuvre, donc, intitulée Symbiose, qui date de 1972, associe plastique, résine, terre et peinture, miroir, transistor, donc composant électronique, et figure un être semi-végétal, semi-technologique, aux oreilles anthropomorphes. Kudo imagine des prothèses technologiques, des expérimentations scientifiques mêlant organes, plantes et machines électroniques, dont le corps humain fait les frais de la perversité. Symbiose propose ainsi la naissance d'un nouvel être, difficilement définissable, mais qui serait pourvu d'outils perceptuels, à l'instar de tout être vivant. Un être vivant qui aurait été réduit à l'essentiel, si ce n'est au minimum, tout en étant optimisé d'accessoires électroniques. Dans le monde de Kudo, sa nouvelle écologie, donc, l'humain ne disparaît pas, mais est profondément muté. Le naturel et l'artificiel vivent donc dans une symbiose, engendrant une nouvelle espèce. Si nos recherches se sont penchées sur l'instabilité de la matière, donc les formes hybrides ou mutantes, parfois sur fond de catastrophes environnementales, une part tout aussi importante a consisté à rendre compte de l'effet que certaines substances ou éléments, drogues, cosmétiques, aliments, produits artificiels, etc., produisent sur le corps. Que cela soit de manière positive ou négative. Et bien souvent, les deux en même temps, dans la logique du pharmacone, qui peut être à la fois remède et poison.